19h-20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Bonsoir Pierre Nora et bienvenue.
Bonsoir Frédéric Becbédé.
Chez La Pérouse où nous sommes très bien installés.
Et pourquoi vous avez choisi ici ?
Parce que c'est une maison de plaisir et que pour moi la littérature est un plaisir.
Ah bon ? Bonne...
J'avais pas prévu cette réponse, donc j'étais bien obligé d'en inventer une. C'est confortable et on est très fiers de recevoir un grand historien, membre de l'Académie française, responsable et organisateur d'un immense ouvrage intitulé « Les lieux de mémoire » qui est disponible en 3 volumes chez Quarto, Gallimard, avec 130 articles de 100 historiens. Pour les gens qui ne connaîtraient pas les lieux de mémoire, est-ce que vous pourriez expliquer, résumer en quelques mots ce projet de votre vie?
Eh bien, il y a des lieux d'histoire, c'est ce qui se passe quelque chose, et puis il y a des lieux qui restent dans la mémoire collective et qui ne sont pas de la science, mais qui sont du sentiment, de l'affectif. Le drapeau français, si vous voulez, ou même plus compliquée, mettons la notion de génération. C'est une question de solidarité de mémoire, par exemple.
Mmh, voilà. D'accord. Bon. Vous êtes aussi l'un des initiateurs de la nouvelle histoire. Là aussi, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que la nouvelle histoire ?
Oui, non, je ne suis pas du tout un initiateur de la nouvelle histoire. La nouvelle histoire, ça a été d'abord Marc Bloch et Lucien Febvre, dans les années 30, autour d'une revue qui s'appelait Les Annales, et ça a donné lieu au mouvement des Annales, et qui consistait à réagir très violemment à une histoire sèche de la diplomatie, des événements militaires et des grandes dates, et d'une sorte de continuité de l'histoire qui nous aurait mené jusqu'à nous, pour étudier les phénomènes de structure, de longue durée, qui perdurent, par exemple...
De manière plus transversale, quoi.
Beaucoup plus, voilà. Oui, beaucoup plus transversale, et qui implique toutes les disciplines des sciences humaines, aussi bien l'économie, la sociologie, les sentiments, l'émotion, etc. Oui.
Alors, vous avez raison de dire que vous n'étiez pas initiateur, mais enfin, en tant qu'éditeur, vous avez participé
à
publier beaucoup.
Ah oui, en tant qu'éditeur, j'y ai participé. Mais la retombée effective de l'école des Annales, si je puis dire, ça a été dans les années 70, quand j'ai fait justement avec Jacques Le Goff, le grand historien médiéviste, un livre qui s'appelait « Faire de l'histoire » et qui consistait à envisager les nouveaux problèmes, les nouvelles approches, les nouveaux objets qui se présentaient à l'histoire en 3 volumes. Voilà. Ça a été la retombée un peu de cette nouvelle histoire et son champ du cygne.
Et vous avez aussi été là, pour le coup, vraiment un des initiateurs, peut-être l'initiateur de l'égo-histoire.
Oui, oui, l'inventeur.
Vous n'allez pas me dire que non. Vous n'allez pas me dire que non.
Oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait, au fond, bizarrement, est une forme d'égo-histoire spontanée.
C'est à ça que je voulais en venir. Je voulais en venir, en fait, à travers les lieux de mémoire, la nouvelle histoire et l'égo-histoire.
Oui.
Il y a une logique qui vous conduit à écrire à 89 ans jeunesse, c'est-à-dire en 2021, le premier tome de vos mémoires, et cette année, 2022, Une étrange obstination, qui est la suite. Et donc, c'est effectivement mettre en application vos grandes théories sur l'histoire individuelle, quoi, sur le cheminement
subjectif. Oui, ça s'est
subjectif.
Fait spontanément. Ça voilà. S'est fait spontanément.
C'est une histoire subjective.
Oui, c'est ça. Ben oui. Non, mais la vérité, c'est que je pensais que je devais depuis longtemps laisser un témoignage sur une époque exceptionnelle, une année, une époque sans pareil, si j'ose dire, que j'ai vécu, que vous avez vécu à votre façon, mais moi je l'ai vécu de façon plus austère que vous.
On a tous les deux été éditeurs, moi chez Flammarion, voilà. Et vous chez Gallimard, on va en parler, mais moi un petit peu moins longtemps, 3 ans contre 57 ans.
Moi c'est 57 ans, oui. C'est pour ça que l'étrange obstination...
Voilà, oui.
Oui, voilà.
Oui, l'étrange obstination, c'est un titre. On en parlait la semaine dernière avec Édouard Baird. On se demandait si c'était un titre prétentieux ou humble. Je crois que c'est plutôt la deuxième solution. Vous dites au fond, qu'est-ce qui m'a pris ? Pourquoi cette étrange obstination de vouloir ?
Mais oui, c'est de la folie. Écoutez,
c'est de la folie.
Renan disait qu'il fallait être fidèle à une maison d'édition, à une femme et à Dieu. Alors moi, je suis au moins pour la première, je suis d'accord avec lui.
On va tout de suite écouter votre premier choix musical, le final des Noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Non mi par che ciò sia in quale resistere si temerà il premio la vete di vostra onestà il paggio mia figlia mia madre ma la scoperta la trava la vergine in quale tempo è qua
perdono, perdono
no, 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 spero perdono
I'm gonna go
Et c'était le final des Noces de Figaro de Mozart par l'orchestre Musique Eterna, dirigé par Theodor Kurensis en 2012. Je suis toujours avec Pierre Nora pour Conversation de deux enfants du siècle chez La Pérouse. Alors, dans vos mémoires, jeunesse, donc suivie d'une étrange obstination, vous annoncez un tome 3. Alors, je voulais savoir si vous aviez déjà un titre.
Non. Et je le ferai probablement pas. C'était dans la ferveur, comme ça, parce qu'à la fin de ce volume, Une étrange obstination, je me suis dit quand même que c'était très austère, que c'était ma vie professionnelle, très intellectuelle, pour tout dire, un peu emmerdatoire.
Non, pas du tout.
Et que j'avais vécu des tas d'autres choses, dont vous avez eu un instant...
Mais bien sûr.
Voilà, et même vous-même des souvenirs.
Oui.
Et que tout ça valait la peine d'être raconté.
Mais peut-être que vous allez le faire.
Ne serait-ce que parce que, par exemple, les trois femmes qui ont quand même occupé, disons, ma vie, la première était Françoise Cachin, avec laquelle, la seule avec laquelle j'ai été marié, enfin, et elle était petite fille de Signac, Paul Signac, et petite fille de Marcel Cachin, fondateur du Parti communiste français. C'est tout un milieu que j'ai connu à travers elle, à la fois d'artiste et de politique, et que ça méritait rien que ça d'être raconté, si vous voulez, pour, pas pour elle, mais pour le milieu. La deuxième, vous l'avez connue, Gabrielle Van Zwillen, qui était un peu de la Jet Society, qui était à cheval entre les États-Unis et la France, et qui a connu la Terre entière, puisque vous avez été chez elle en Hollande, et que moi j'y étais avec la Callas et Kissinger, par exemple. Donc oui. J'ai des choses à raconter, et de bien l'un sûr. Et de l'autre, mettons. Et puis la troisième, vous la connaissez au point de nom, c'est Anne Sinclair. Et
aussi d'une grande famille d'artistes.
Comme la première. Famille d'artistes. Et au fond, ça m'aurait amusé de raconter à ma manière.
Écoutez, je l'ai dit quand vous voulez. J'édite ce livre quand vous voulez. Écrivez-le très vite pour que je puisse l'éditer.
Voilà.
Donc, vous avez toute votre vie eu une carrière parallèle, à la fois éditeur en sciences humaines et histoire, et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Alors maintenant, je vais vous demander de répondre à mon article très polémique paru dans le Figaro Magazine en octobre.
Il n'était pas du tout polémique, il était extrêmement flatteur. C'est parce que vous vous présentiez à l'Académie française quelques jours après.
Et sans doute. C'était vraiment pas très fin de ma part. Mais quand même, il y avait
quand même très gentil.
Il y avait des aspects critiques parce que je disais au fond, d'abord que votre entrée chez Gallimard en 65, qui est mon année de naissance, vous la décriviez comme... Vous dites, il y a une magie Gallimard, et vous la décrivez comme si vous étiez Harry Potter qui arrive à l'école des sorciers. Vous étiez très, très impressionné, très admiratif, et finalement, vous êtes d'ailleurs resté presque toute votre vie dans cette maison. Vous avez publié 1000 livres.
Plus que chacun des Gallimard.
Oui,
je suis resté plus longtemps que chacun des
Gallimard. Hallucinant.
Oui, c'est hallucinant. Et d'ailleurs, Antoine Gallimard me disait, vous êtes plus Gallimard que les Gallimard.
Alors, votre plus grande fierté, c'est d'avoir publié Foucault, non?
Oui.
Les mots et les choses en 66 ?
Non. Parce que Foucault, il se serait publié tout seul, tandis que, mettons François Jacob, le prix Nobel de médecine, qui a fait un livre extrêmement original sur l'histoire de l'hérédité, et qui a incarné un moment où ce sont les scientifiques eux-mêmes qui reprennent l'histoire de leur discipline et pas simplement des historiens des sciences différents d'eux. Je suis très fier d'avoir publié ce livre, La logique du vivant, qui est un livre magnifique.
Ah non, mais je ne disais pas que je ne dis pas que vous n'avez
pas
publié
que
Michel Foucault. Vous avez publié Georges Duby, François Furet,
oui,
Mona Ouzouf,
oui,
Emmanuel Leroy Ladurie,
oui,
Raymond Aron.
Oui.
Jean Starobinski,
oui.
Et Benveniste.
Oui.
Bon, on ne va pas faire la liste. Si, c'est fait, trop tard.
Mais non, c'est pas la liste intégrale.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que là où je vous critiquais, c'est que vous dites que finalement, Michel Foucault,
oui.
Il était un petit peu toujours en train de chercher la distance entre les mots et les choses, la distance entre le réel et le mensonge. Il cherchait la petite bête, en quelque sorte. Et du coup, peut-être qu'il était à l'origine d'un mouvement qui est celui de la disparition du vrai aujourd'hui, des fake news, de ce qu'on appelle les faits alternatifs.
Oui, bien entendu, il n'en est pas responsable, c'est pas du tout. Mais il y avait son problème de philosophe, était le problème de la vérité. Alors, évidemment, chez un philosophe comme lui, il allait la chercher très loin, la vérité. Il la trouvait derrière les mots, derrière les choses, derrière... Tout son problème était le dire vrai, la croyance et la vérité, et
oui, l'air
fait
du
d'avoir
soupçon.
Été sur la piste de ce discours, qui l'a mené extrêmement loin, a effectivement fait de la vérité un tel problème qu'on l'a fini par l'oublier. La vérité,
c'est ça.
Vrai, si et j'ose voilà. dire la simple vérité.
Et vous pensez que...
Parce que si on pense c'est... que vous n'êtes pas
c'est
en face de
c'est la faute à
moi,
Foucault.
Je n'irai pas jusque-là, parce que j'ai pour lui une profonde admiration. Mais, et puis, je me suis amusé tellement avec lui. Puis, il a compté beaucoup pendant 25 ans de ma vie d'éditeur. Et je me suis chamaillé avec lui. J'ai
ah
eu
oui,
des tas de problèmes.
Il menace de quitter Gallimard pour un oui ou pour un non, parce que vous avez
oui.
parlé à la mauvaise personne.
Oui.
Ou signé un article qui l'a vexé.
Oui, non, ce qu'il a mal supporté, c'est l'arrivée auprès de moi du jeune Marcel Gouchet, en qui il a fort bien deviné une sorte de concurrent, dont le premier livre disait, sans le nommer, le contraire de ce que l'histoire de la folie de Foucault disait, et qu'il a connu à mon propre séminaire, puisque Foucault m'avait fait... Marcel Gouchet faisait le plaisir de venir à mon séminaire, il était très jeune, et Foucault était venu pour honorer son éditeur, parce qu'il était en congé sabbatique, c'est-à-dire pendant l'année où on est en vacances au Collège de France, et parce qu'il s'intéressait à ce que faisaient les historiens et qu'il se disait que j'allais faire quelque chose d'un peu nouveau. Et on a effectivement, alors vous imaginez la terreur, dans un séminaire de 25 ou 30 personnes, Foucault, les pieds sur la table, son petit cahier, prenant des notes, restant tout à fait silencieux. Mais il a très mal supporté l'arrivée auprès de moi, pour faire en particulier le débat, de ce garçon dont il a senti obscurément une forme de rivalité intellectuelle.
Alors Marcel Gouchet, avec qui vous avez donc créé cette revue Le Débat,
oui.
qui est d'ailleurs aujourd'hui cancellée par les wokistes. Hein, en 2014, Édouard Louis a appelé au boycott des rendez-vous de l'histoire de Blois, parce
c'est
que Marcel Gouchet était
le
président.
La folie, c'est indigne, c'est ridicule.
Bien sûr, mais c'est une réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai retour des extrêmes qui était le combat de votre vie.
C'est pour ça que j'ai arrêté le débat. Pour ça que j'ai arrêté
mais
le débat.
Mais il fallait peut-être pas arrêter
c'est
le débat au moment où on en a besoin du débat.
Ben, oui et non, parce que d'abord, il y a d'autres raisons. Il y a le fait que la revue n'avait absolument pas bougé de forme, de format, de typographie, de longueur d'article, de tout ce que vous voulez, depuis 40 ans. Or, si vous regardez, mettons, la une du Monde, du journal Le Monde, il y a 40 ans et maintenant, c'est plus le même journal, et c'est quand même le même journal. Eh bien, il aurait fallu faire la même chose avec Le Débat, et qui se voulait un peu le monde intellectuel.
Oui, oui.
Et donc, ça aurait dû changer... Et j'avais plus l'âge. J'étais trop vieux et j'étais tiraillé par l'envie, le fait d'écrire ces mémoires parce que, encore une fois, je le redis, je me sentais en quelque sorte le devoir de laisser une trace et des souvenirs de cette époque unique et qui restera longtemps, je crois, inégalée.
Alors, on va écouter votre deuxième choix musical et on va... avec plaisir, continuer à parler avec vous, Pierre Nora. Alors, votre deuxième choix musical...
Violence, c'est... Romance de Beethoven.
Et non, d'abord, on a
le
Notturno pour piano, violon et violoncelle de Schubert.
Thank you.
Je suis toujours avec Pierre Nora, je suis toujours Frédéric Becbédé. Sur ces deux points, nous sommes d'accord. Et vous avez souvent dit que vous aviez connu la fin des utopies et l'arrivée de la mondialisation capitaliste, individualiste. Eh bien, tout de suite, j'envoie la publicité. Voilà, c'est la preuve que oui.
Vous trouvez que vos placements ne vous rapportent pas assez ? Savez-vous qu'en suivant les conseils boursiers d'Investir, vous pouvez gagner au moins 9% par an ? Avec la rédaction d'Investir, profitez des meilleurs conseils financiers et suivez l'actualité des marchés pour saisir toutes les opportunités. N'hésitez plus, abonnez-vous car maintenant, vous savez. Investir, l'abonnement très rentable. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Noël, avec la Croix à l'Hebdo. Cette semaine, découvrez le quotidien du service de néonatologie du CHU de Grenoble. La Croix Libdo y a passé une semaine avec soignants, parents, enfants. Notre récit de Noël raconte des histoires de patience et d'attente, de peur et d'espoir. Rencontrez aussi un moine bénédictin devenu ermite pour se rapprocher de la terre. La Croix Libdo est en vente chez votre marchand de journaux.
Partez à la découverte de Lucky Luke, le célèbre cow-boy solitaire. Plongez dans plus de 70 ans d'histoire de la BD avec le nouveau hors-série du Parisien. Documents d'archives, croquis inédits et planches originales d'albums racontent ces destins incroyables qui ont forgé l'histoire du Far West. Une édition collector du Parisien entre légende et réalité. En vente chez votre marchand de journaux.
Lise Meitner, Jocelyne Bell, deux physiciennes exceptionnelles et pourtant méconnues, alors que leurs découvertes ont changé le monde. La série Flammes de science au théâtre de la Reine Blanche remet ces femmes dans la lumière. Exil intérieur, premier épisode, raconte la découverte de la fission nucléaire. Prix Nobel, deuxième épisode, celle des pulsars, ces étoiles qui scintillent. Exil intérieur et prix Nobel, deux pièces au théâtre de la Reine Blanche à Paris.
Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez Lapérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Et nous sommes toujours chez Lapérouse. Avec Pierre Nora, nous parlions de l'arrêt de la revue Le Débat en 2020, après 40 ans d'existence. Pour moi, l'arrêt d'une revue qui s'appelle comme ça n'est pas anodin. C'est-à-dire que Pierre, c'est un symptôme. C'est un symptôme de la fin de tout débat. D'ailleurs, l'arrêt...
C'est ce que j'ai voulu exprimer en l'arrêtant.
Ah ben oui.
Si je ne l'avais pas arrêté, elle se serait tombée en quenouille Personne n'aurait remarqué qu'elle était arrêtée, parce que c'est bon. Et l'arrêté avait une signification.
C'est un symbole. C'est un
que
symbole.
J'ai voulu qu'il ait.
Donc vous êtes d'accord avec moi, à part dans cette émission, le débat démocratique est devenu impossible et se résume à une suite d'invectives, de clashs ridicules.
Radicalité, de... Oui. Alors du coup, l'intérêt du débat, c'était de discuter avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec vous, mais qui acceptaient de discuter. Bon, s'ils sont incapables de discuter, qu'ils ne veulent pas discuter, que leur vérité est point final, on ne fait plus que débattre entre nous, c'est-à-dire entre gens qui sont du même avis.
Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une mélancolie dans tout de même ce constat ?
Bien sûr qu'il y a une grande mélancolie.
On le sent dans Jeunesse et dans Une étrange obstination, vos mémoires chez Gallimard.
Évidemment, on a vécu la fin d'une époque. Écoutez, quand je vous disais une époque sans pareil, songez simplement que nos parents, peut-être pas les vôtres, mais les miens, ils ont vécu les deux guerres et les années 30.
Ça, on ne le regrette pas.
On ne peut pas non seulement ne pas le regretter, mais ils ont vécu le martyr. Enfin, ils ont vécu très, très durement. La guerre de 14. Et... Bon, depuis les années 95, 2000, 2005, on est entré dans une période où on est conscient, les jeunes au moins, c'est évident, de l'avenir qui leur attend et qui n'est pas drôle, et qui est même très difficile et qui conjugue des crises d'une gravité exceptionnelle, démographique, climatique, néo-stratégique, tout à la fois. Et on comprend, on a vécu une époque heureuse. D'ailleurs, c'est comme ça que se termine mon bouquin, sur un chapitre qui s'appelle « Le bonheur et la chance ». On a vécu une époque bénie, et peut-être une des époques de l'humanité les plus heureuses. Ici, j'entends chez Lapérouse, parce que...
Vous voulez dire entre les années 50 et les années 2000.
Et les années 80, 2000.
Oui.
On a vécu une période de paix. Pour nous, à part la guerre d'Algérie, si j'ose dire qu'il n'a pas été rien pour ceux qui l'ont vécu, mais c'est quand même une parenthèse par rapport à la Grande Guerre ou à la guerre de l'Ukraine que tant aujourd'hui.
C'est étonnant de vous entendre dire ça, parce que quand on lit Jeunesse commence chez moi, au Pays Basque, à la Frontera d'Andaille, où à cause de votre frère aîné Simon, qui a plus de 18 ans et qui n'a pas le droit de passer en Espagne, eh bien vous êtes obligé de faire demi-tour, vous êtes une famille juive, Nora, et vous êtes obligé de remonter à la capitale
en
1940.
À Grenoble.
Oui, vous êtes allé à Grenoble.
C'est mon père qui est remonté dans la capitale et qui a vécu toute la guerre dans des conditions également pas faciles, et après avoir s'être réengagé en 1939. Donc, c'est... Par la guerre, il était un chirurgien.
Parce que vous avez l'air de dire, on a vécu une période heureuse. Vous aviez 9 ans, et de 9 à 13 ans, vous avez vécu...
Oui, de 9 à 13 ans, ça m'a donné un capital
sentiment
que, si vous voulez, ça m'a d'abord donné le sentiment que l'histoire était tragique. À la différence de beaucoup d'enfants qui, quand même, n'ont pas ce sentiment-là, ça m'a aussi beaucoup décalé par rapport à ma génération, parce que quand je suis revenu à Paris, avec les petits gosses de lycée Carnot, qui s'étaient pratiquement pas aperçus qu'il y avait eu la guerre, j'ai senti un décalage quasiment de génération.
Oui, et vous racontez par exemple que le maréchal Pétain vous a caressé la joue et vous a écrit une lettre à Grenoble, alors que vous aviez 10 ans. Et pourquoi il vous a écrit une lettre ?
Mais parce que ça a été un des premiers voyages de Pétain en province, au moment où l'atmosphère commençait à être mauvaise, après l'étoile jaune, etc. Et à Grenoble, il y a une place Verdun, il a fait son discours sur la place, il est descendu, et nous, élèves des écoles, j'étais en classe de 6e, on nous avait mobilisés pour aller faire la claque au Maréchal Pétain. Alors évidemment, ma mère ne voulait absolument pas que je me prête à cette folie, mais mes frères, qui commençaient à faire de la résistance à Grenoble, trouvaient que c'était vraiment pas la peine que je me fasse remarquer pour une...
Oui, en
si
étant
peu.
Absent, vous vous faisiez plus remarquer qu'en y étant.
Évidemment. Évidemment. Et là, j'ai été pris dans une foule, et c'est ma première angoisse de panique de foule, coincé contre le mur, j'ai hurlé, on m'a mis au premier rang juste au moment où De Gaulle, son discours Pétain, son discours terminé, passait. Il voit un enfant qui respire mal, qui a l'air en extase, il m'a cru en extase devant sa présence. Il s'est donc approché, il m'a tapoté sur la joue, effectivement. Oui. Et
ensuite, vous avez fait un bon devoir.
Et il est parti. Et évidemment, le lendemain, on nous a dit, dès qu'on est arrivé en classe, une copie, vos impressions du maréchal Pétain. Et moi, j'avais quelque chose à raconter, j'étais bon en français, du coup, j'ai fait une copie, dont je me souviens plus même, mais qui a été envoyée à Vichy, parce que je racontais que De Gaulle, décidément.
Vous auriez peut-être préféré.
Oui, j'aurais préféré De Gaulle. Et voilà. Et donc, cette copie est revenue.
Oui, avec le continu, bien, bravo.
Voilà.
Un petit garçon juif, félicité par le maréchal Pétain, je pense que vous êtes le seul.
Hein. Oui, je pense.
Alors, je continue dans les anecdotes qui sont quand même assez terrifiantes quand on y pense aujourd'hui. Est-ce que votre refus des extrêmes, il vient peut-être de là, de cette nuit de 43? Vous avez dû sauter par la fenêtre dans la neige pour aller vous cacher dans une grange parce que les Allemands étaient en bas de chez vous, en train de venir vous chercher.
Oui, et dont j'entendais la voix hurlante, et le directeur de la pension qu'on m'avait mis, avec beaucoup de courage, est venu monter avant, je ne sais pas comment il avait su, probablement quelques minutes avant, et m'a dit « fonce, jette-toi par la fenêtre ».
Mais c'était au deuxième étage.
Oui, mais il y avait un appentis entre le premier... Et si bien que je suis tombé sur l'appentis... Et j'ai glissé, et je suis tombé dans la neige. Puis voilà, ce qui est le souvenir le plus fort que j'ai, c'est que j'avais pas le temps de lacer mes chaussures de neige, et que la neige m'arrivait dans les chaussures. Et je suis allé me cacher dans une ferme dont mon frère m'avait donné l'adresse, au cas où il y aurait un pépin.
C'est incroyable. Et le maire du village de Méaudre, Monsieur Audemars, vous a caché. Vous a caché, c'est donc injuste. Et en même temps, c'était un salaud, puisqu'il a aussi été responsable de la mort de pas mal de résistants. Il n'avait pas trop le choix.
Il ne le savait pas. Oui. Et ce que je ne savais pas à l'époque, mais je l'ai appris depuis, c'est que le colonel de l'armée allemande, qui était venu d'homme à homme en lui parlant des anciens de la guerre de 14, qu'ils étaient tous les deux, et en demandant que tous les garçons qui étaient partis dans la montagne reviennent et qu'il ne leur arriverait rien, alors qu'ils ont tous été fusillés, batraqués,
une mort horrible.
Eh bien, j'ai appris depuis que ce colonel, un an après, était pris dans le complot contre Hitler et avait été fusillé.
Ah oui, c'est fou.
Si je l'avais su à l'époque, je l'aurais évidemment mis dans mon bouquin.
C'est dingue. Alors, votre troisième choix, c'est un Allemand. C'est Ludwig van Beethoven. Comme quoi, il y a aussi... Il faut de tout pour faire un pays. Romance pour violon et orchestre numéro 2. Avec Anne-Sophie Mutter au violon et le Philharmonique de New York, dirigé par Kurt Mazur en 2002.
Merveilleux.
Thank you.
C'est toujours un immense honneur d'être en compagnie de Pierre Nora pour Conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse. Nous avons dans cette émission un jeu. Il s'agit de vous faire deviner vos propres citations. Donc je vais vous lire des phrases que vous avez écrites et vous devez me dire dans quel livre. Alors, pour vous, c'est un peu plus facile puisqu'il n'y a que deux autobiographies, mais il y a peut-être des pièges. Alors, attention, je commence. Après avoir été longtemps le plus jeune, tout fier d'exhiber en public ma date de naissance comme le dernier... C'est la fin de Genèse 2021. Je finis la phrase quand même. Donc, tout fier d'exhiber en public ma date de naissance comme le dernier né, eh bien, je me trouve aujourd'hui le plus âgé. Tout fier d'exhiber ma date de naissance comme un survivant précaire. Donc, votre idée, c'est qu'il faut être le plus jeune ou le plus vieux. Mais entre les deux, c'est nul. C'est mon cas, hein, moi, 57 ans. Aucun intérêt.
C'est vous qui le dites.
Une autre phrase. Enfant précoce, j'ai été un historien tardif.
C'est la fin de la consternation. Non,
non, c'est une étrange obstination. Il n'y a pas de consternation. Mais c'est vrai que les lieux de mémoire, vous l'avez commencé à plus de 50 ans. Donc finalement, il y a d'espoir pour les quinquagénaires comme moi. Il y a quand même un espoir. Tout n'est pas foutu. Une autre citation. Pourquoi te présentes-tu à l'Académie par modestie ?
À mon frère aîné.
Ça, c'est ce que vous lui avez dit, et c'est dans Jeunesse.
Oui, c'est lui qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu te lances dans cette aventure idiote ? Ça t'apportera quoi ? Pourquoi tu le fais ? Et je l'ai regardé dans les yeux, mais il y avait beaucoup dans cette... par modestie. C'est parce que lui-même, par orgueil, a raté beaucoup de choses.
Il a refusé beaucoup de postes, de ministres, voilà. Des choses comme ça, oui. Mais c'est vrai que vous dites également que une des chances de votre vie, c'est de ne pas avoir été reçu à Normale Sup.
Ça, c'est vrai. Ben, j'aurais été un prof, probablement. Ben, je l'ai été aussi, mais je n'aurais pas fait d'édition, très probablement. J'aurais suivi une carrière qui m'aurait mené dans une faculté de province, probablement. J'aurais peut-être écrit des livres... Ma vie aurait été complètement la même. Complètement différente, je dirais. Elle n'aurait pas été ce que j'ai été. Ça, c'est sûr.
Vous dites aussi à un moment que si vous étiez passé à la frontière espagnole en 1940, vous seriez devenu un prof américain.
Oui. Quelqu'un m'a dit, c'est pas vrai, parce qu'après la guerre, ton père t'aurait fait revenir.
Ah bon, alors voilà. Vous voyez peut-être que le destin est inchangé. Mais c'est vrai que ce qui frappe dans ces deux livres, Jeunesse et Une étrange obstination, c'est votre innocence. Comme si vous écriviez avec excitation, avec gratitude, d'avoir été dans tous ces endroits au bon moment. Comme si, au fond, vous n'y étiez pas pour grand-chose.
Écoutez, le plus beau compliment que j'ai eu sur ces livres, c'est de quelqu'un qui, d'ailleurs, ne me l'a pas fait à moi directement, mais l'a fait à quelqu'un qui me l'a répété. Il écrit jeune.
Mais il y a presque une fierté intacte, une sorte de, je ne peux pas dire autrement, d'innocence. Vous n'êtes pas naïf, parce que vous êtes extrêmement érudit, et puis vous avez connu tout le monde, tout ce qui compte de philosophe, d'intellectuel. Mais d'arriver à écrire à un âge certain, avec une fraîcheur comme ça, vraiment, bravo.
Merci.
Un éditeur, c'est quoi un bon éditeur ? C'est un contrôleur aérien ?
Non. C'est un grand couturier, c'est un chef d'orchestre, c'est
une antenne, un paratonnerre.
C'est un négrier.
Une assistante sociale ?
C'est une assistante sociale, oui, ça c'est sûr. c'est un diplomate.
Souvent, vous dites que vous réécriviez pas mal aussi les livres de certains.
Faut pas le dire, parce qu'ils vont tous se croire réédités et dire qu'il m'a réédité, qu'il m'a réécrit, c'est pas vrai.
C'est pas ce que je dis, mais parfois, ils vous le demandaient, eux-mêmes.
Oui, c'est vrai.
Donc on ne dira pas le nom.
Oui. Il y en a même un qui m'a dit, mais mes lecteurs ne me reconnaîtront pas.
Au fond, vous avez voulu écrire un récit d'homme de l'ombre qui attrape la lumière.
Mais c'est vrai. Je pense qu'on pourrait faire... Et François Doss, qui a fait ma biographie, je lui en avais parlé, il a fait le bouquin, qui n'a malheureusement pas très bien marché, c'est de faire l'histoire des éditeurs. Des gens de l'ombre, comme Jérôme Lindon, le directeur des éditions de Minuit, a été un homme de premier plan, à la fois sur le plan intellectuel, sur le plan éditorial. C'est lui qui a inventé le nouveau roman.
Oui, mais il n'y en a pas tant que ça. Vous cherchez d'autres noms, mais vous savez,
si,
il n'y en a
si,
pas
si,
tant
si,
que
si,
ça.
J'en ai pas parlé. Paul Flamand, par exemple.
Ah, ben votre, Auxeuil. Votre neveu, Olivier Nora.
Mon neveu, bien il sûr. A été à bonne école avec moi.
Vous avez... Donc, moi, je concluais cet article en disant, malgré son étrange obstination, Pierre Nora a peut-être perdu son combat contre la connerie. Voilà, l'histoire est racontée par les vainqueurs. Vous êtes un grand historien, vous le savez. Est-ce qu'elle est désormais racontée par les animateurs de télévision ? Est-ce que Cyril Hanouna a remplacé
Oh, écoutez, ne polluez pas notre charmante conversation avec des noms obscènes.
Non, mais ce sont des questions importantes, parce qu'un animateur de télévision est devenu président des États-Unis il n'y a pas si longtemps.
Oui, c'est vrai, bon, ben, il n'y a pas à s'en vanter.
Donc je crois que vous tirez un peu la sonnette d'alarme avec ce...
Non, mais c'est évident, c'est ce que j'ai voulu.
Oui, oui.
Et si ces livres... avait l'espoir de rester un peu, c'est pour ça. C'est une sorte de référence à une époque disparue. Mais encore une fois, l'époque n'est pas qu'intellectuelle. Elle est, et d'ailleurs, je pense que si elle a été aussi effervescente sur le plan intellectuel, c'est parce qu'il y avait la paix.
Oui.
C'est que tous ces gens-là ne sont pas morts pendant la guerre de 14, très jeunes. C'est qu'ils ont eu le temps de penser. Ce sont les enfants de la croissance économique, des Trente Glorieuses de la croissance économique, et ils ont été les Trente Glorieuses de la croissance intellectuelle. Donc, c'est pas simplement eux, c'est l'époque qui les a fait.
Et vous pensez que là, après donc 30, 40 ou 50 ans de paix, d'intelligence et de démocratie, nous sommes de nouveau à la veille d'un cataclysme, par exemple avec cette guerre en Ukraine. Est-ce que vous craignez cela ?
Il y aura pire.
Vraiment ? Mon Dieu, il est très sérieux, il me regarde sans rigoler du tout en disant ça. Je le dis pour les gens qui n'ont pas les images.
Mais je le dis tristement et je voudrais pas le dire. Parce qu'il faut que les jeunes aient quand même le désir de se battre, de croire en quelque chose, qu'ils ont quelque chose à défendre de très important, et qu'il faut qu'ils continuent à le faire, et finalement ça se fera, parce que l'espèce humaine ne va pas disparaître, et que, comme disait Gide et la Bible, le monde sera sauvé par quelques-uns.
Mmh. Mon Dieu, j'ai froid dans le dos en vous écoutant. Heureusement, vous avez choisi Louis Armstrong... pour nous remonter le moral,
oui.
Mack the Knife. Alors, savez-vous que Mack the Knife, à l'origine, c'est une chanson écrite en 1928 par Bertolt Brecht sur une musique de Kurt Weill pour l'opéra de Katsu.
Pour l'opéra de Katsu. Oui. Ah, ben j'apprends. Ça, ben, vous voyez, vous m'apprenez. Je suis venu
je suis
apprendre
très fier.
Quelque chose.
Merci
ici.
Beaucoup.
Shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mack Heath, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mack Heath, dear? So there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning even, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is this someone Mack the Knife? From a tugboat by the river, a cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. bet you Mac he's back in town. Look at you, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac he spends like a sailor. Did our boy do something rash? Sookie Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanyard, Sweet Lucy Brown, all the line forms on the right, dears. Now that Mackie's back in town,
take it, Satch.
Quel luxe inouï que de discuter avec vous, Pierre Nora, chez La Pérouse, dans une ambiance très confortable, feutrée et agréable, avant l'apocalypse que vous venez de nous annoncer.
Et surtout pendant qu'il se passe d'autres choses à Batchouk.
Oui, oui, c'est vrai. Nous avons de la chance.
Mais oui.
Je continue mon petit jeu de vous demander de me dire dans quel livre vous avez écrit telle ou telle phrase. Alors, après avoir édité quelques 700 livres, je me suis résolu à méditer moi-même.
C'est la première phrase de Historia Public.
Exactement. Oh, mais il a une bonne mémoire. C'est un test pour savoir si vous avez la maladie d'Alzheimer. Je vois que non, vous ne l'avez pas. C'est effectivement en 2011 dans Historien Public. Une autre. Je ne suis pas ce qui s'appelle un grand historien, mais j'ai servi l'histoire.
C'est la fin de la préface d'Historien Public.
Oh là là, 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 il connaît tout. Mais expliquez.
Tout, c'est moi qui l'écris.
Mais vous savez, il y a des tas d'auteurs que j'ai reçus, je leur lis leurs phrases, ils ne s'en souviennent pas, ils ne savent pas dans quel livre c'était, je vous assure. Alors, expliquez cette phrase. J'ai servi l'histoire, mais je ne suis pas un grand historien. Parce que cette phrase, elle me plaît, parce qu'elle me rappelle le début de Triste Tropique. Vous vous souvenez, je hais les voyages et les explorateurs. Et puis, juste après, c'est le plus grand anthropologue qui ne parle que de voyages et d'exploration. Et au fond, pour... Vous êtes un grand historien et vous dites « je ne suis pas un grand historien ».
Non, non.
Fausse modestie ?
Non, 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 non. Un grand historien, c'est un homme qui fait probablement des recherches vraies. Par exemple, comment être un grand historien quand on n'a pratiquement pas travaillé aux archives nationales ?
Bah, il suffit de faire les lieux de mémoire, si vous faites les lieux de mémoire.
Exactement. Oui, ben... C'est un marginal, quand même, historien, par rapport à... Je ne sais pas, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec un de mes auteurs qui s'appelle Jean-Claude Schmitt, qui est un médiéviste, le meilleur élève de Jacques Le Goff, et qui a écrit de très beaux livres, dont le dernier était sur le cloître des ombres, cette histoire du démon qui obsède des prêtres dans un couvent, etc., parce qu'il a retrouvé un manuscrit qui lui permet de le faire. C'est un grand livre, mais il a fait un livre sur les revenants, il a fait un livre sur les rêves, il a fait un livre... Vous voyez, par rapport, vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce que c'était que l'histoire. Eh ben, c'est pas l'histoire du règne de Philippe le Bel, mais c'est l'histoire des rêves au Moyen-Âge, par exemple, qu'on connaît à travers les récits des papes, par exemple. Eh ben, c'est un sujet qui, quand même, excite la curiosité... mais n'explique pas la filiation temporelle dont nous sommes les héritiers.
C'est assez marrant parce que vous cherchez toujours, au fond, à réunir des choses qui ne vont pas ensemble. Je prends un exemple. À propos de Claude Lévi-Strauss, que vous avez bien connu, hein, puisqu'en plus il était à l'Académie avec vous.
Et qui m'a en partie fait entrer.
Oui. Vous dites, le succès de Triste Tropique, c'est uniquement parce qu'en 1955, c'est l'inauguration du Club Med. Le rapport entre...
Ça ne lui a pas plu, j'aime autant vous dire. Bon, écoute... Non, mais c'est une des plusieurs raisons. Mm. C'est en effet, on voit en montée, en flèche, le Club Med, c'est-à-dire...
L'exotisme.
L'exotisme, oui. Exactement. C'est le 20e congrès du Parti communiste qui déboulonne Staline, et donc c'est la fin du mythe révolutionnaire communiste, pour l'Europe en tous les cas, et du coup... c'est Bandung aussi, c'est-à-dire la conférence du neutralisme par rapport aux deux blocs et la naissance du tiers-monde. Oui. C'est-à-dire et donc, c'est le moment où le primitif remplace le prolétaire.
C'est intéressant, parce que vous voyez, ce qui est extraordinaire avec vous, c'est que vous êtes capable de rapprocher des choses spontanément ne vont pas forcément ensemble pour expliquer évidemment. L'histoire. C'est ça, au fond, c'est ça que vous avez fait toute votre vie. C'est ça que j'ai essayé
de dire. Oui, c'est ça que j'ai fait,
cet exemple-là. Alors, une chose tout de même qu'on peut vous reprocher, c'est que vous avez inventé Instagram. Ben oui, le concept d'égo-histoire, c'est la même chose qu'Instagram. Donc c'est votre faute si aujourd'hui les gens sont devenus tous complètement égocentriques.
Oui, c'est comme Foucault au fond, je suis coupable, on est coupable, tous les deux coupables.
C'est bien que vous fassiez votre mea culpa en direct dans cette émission.
Voilà.
Mais plus sérieusement, et puis on va devoir malheureusement se séparer, mais est-ce que c'est pas vexant pour l'homme de mémoire que vous êtes de voir ce monde devenir amnésique?
Qu'est-ce que vous voulez dire par amnésique ? Il oublie l'histoire, c'est-à-dire il oublie d'où il vient.
Oui.
Et quand on oublie d'où il vient, on sait qu'on devient Alzheimerisé.
Et surtout, on reproduit les mêmes bêtises que les générations antérieures.
De toute façon, on les reproduit les mêmes bêtises. Ça, l'histoire n'apprend rien de toute façon. Elle est désintéressée, mais on a cessé de croire qu'elle apprend quoi que ce soit. Elle est nécessaire néanmoins.
À ce point-là, vous ne pensez pas que si les gens étaient un petit peu plus curieux de leur passé, ils ne reproduiraient pas les mêmes erreurs ?
Non. Non, ça je ne pense pas du tout. Je pense qu'on est fait pour les reproduire et pour faire sa propre expérience. Mais quand même, je pense que l'histoire est absolument consubstantielle à une conscience collective. Et effectivement, vous avez raison de dire que cette conscience collective n'est plus consciente de son propre passé. Et c'est pour ça que la mémoire vient à la place de l'histoire, si j'ose dire. Une mémoire qui suppose de l'individualisme, qui suppose la vie dans le temps présent, parce que ça bouge beaucoup plus vite. L'histoire bouge beaucoup moins vite que la mémoire.
C'est le sens de la phrase que vous avez prononcée dans le Figaro le 15 septembre dernier. L'affaissement culturel favorise l'extrémisme.
Oui, c'est sûr.
Bon, eh bien écoutez, sur ce constat d'échec, je vous remercie infiniment, Pierre Nora, d'être venu.
Écoutez, il faut avoir l'échec optimiste.
Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre Nora. Et nous sommes vraiment extrêmement heureux de vous avoir reçu ce soir sur Radio Classique.
Moi aussi, Frédéric Beigbeder.
Merci.
Qui était un mythe depuis toujours et qui est devenu une réalité.
Merci à toute l'équipe. Philippe Gau pour la production, Matteo Catizone-Berardi et Romain Rieuvernet pour la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Tout de suite, le journal du classique avec Laure Maison. Et la semaine prochaine, on rediffuse l'entretien avec Geoffrine Donadieu parce qu'elle a obtenu le prix de Flore et on est très fiers. On avait reçu cet écrivain qui a été couronné dans cette rentrée littéraire. À bientôt.
À bientôt.